Interview.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur RDWA au 101.7 ou 107.5 FM. Et aujourd'hui, je reçois Élodie Doniaquet dans le studio radio de Luc Andiwa. Élodie, bonjour.
Bonjour.
Tu te définis comme une trapéziste, une danseuse et une chorégraphe. Tu es franco-espagnole et tu vis et travailles entre Bruxelles, donc la Belgique, et Châtillon en Diwa. Et tu proposes bientôt plusieurs sessions de stages dans le Diwa, des stages de recherche concernant des mouvements aériens. Alors pour moi, c'est un peu mystérieux. Qu'est-ce que c'est un stage de recherche ?
Un stage de recherche. Qu'est-ce qu'un stage de recherche ? Ben écoute, l'idée, c'est d'amener les gens à, sur base de leur technique aérienne, donc que ce soit du trapèze fixe, de la corde, du machinois, enfin tout ce qui sont les disciplines qu'on appelle statiques dans le cirque, donc c'est un agrès en suspension, et c'est de travailler sur la base de leur technique de cirque et d'aller chercher avec des outils qui viennent plus de la danse contemporaine pour ouvrir en fait des portes et puis travailler plus sur l'aspect chorégraphique que technique de ta discipline de cirque, donc ouais, de créer, enfin pas de créer, là on est vraiment dans la recherche, donc on n'est pas dans un but, dans une finalité d'avoir un résultat, mais plutôt d'ouvrir des portes grâce à l'improvisation notamment, et à plein de clés et de consignes qui vont te permettre d'aller plus loin dans le mouvement.
Ça veut dire que ça s'adresse à des personnes qui ont déjà une expérience, soit en cirque, soit en agrès suspendu, comme tu dis ?
Ouais, l'idée, oui, c'est d'amener un public d'artistes circassiques, enfin, d'aériens professionnels dans la région. Après, ça peut être aussi quelqu'un de passionné qui a une pratique régulière. Et j'ouvre toujours aussi aux gens qui viennent peut-être d'autres disciplines du corps, mais qui sont intéressés par découvrir un travail en suspension.
Dans la description de ton stage, tu dis que vous allez d'abord commencer par des mouvements au sol. Mm-hmm. Est-ce que c'est important est-ce que c'est quelque chose qu'on fait habituellement, de commencer par le sol avant de s'élever dans les airs ?
Pas forcément, non. Après, il y a d'autres personnes qui, je pense, travaillent de cette façon. Après, moi, étant donné que j'ai un peu un parcours de danseuse et de circassienne, ben, je tiens vraiment, oui, à chercher en premier à terre. Comme ça, t'as pas la peur de la chute, peur du risque. Et puis, c'est vrai que quand même, au sol, t'as une liberté que tu as moins sur l'agrès. L'agrès demande énormément de force physique. Donc c'est une manière de s'économiser, un, et de deux, surtout, avoir plus de liberté dans l'exploration sur les consignes que je donne.
On va reparler de ton parcours, mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous donner les informations pratiques de ce stage ? Quand est-ce que ça a lieu, par exemple ?
Alors, il y a trois sessions qui sont indépendantes, on n'est pas obligé de s'inscrire à toutes. Et la première, elle est dans pas longtemps. Donc s'il y en a qui ont envie, n'hésitez pas, et s'il y en a qui n'ont jamais fait ça, c'est pas grave, on va trouver un moyen de travailler ensemble, donc du 8 au 11 septembre. Ce sera au CERF, à Barnave, c'est dans un lieu magnifique, chez Véronique Gouga. Voilà. Ensuite, on a du 13 au 16 octobre, ici, à l'Exosquelette, à Luc Andiwa.
Muscardin,
ouais, chez Elsa et Jérôme. Et le dernier, c'est du 17 au 20 novembre, à La Griotte, à Die, chez Trotola.
Le prix de ce stage, quel est-il ?
C'est 200 euros pour les 4 jours de travail.
Et si on veut s'inscrire, comment on fait ?
Ben, il faut m'appeler au 06 49 12 10 36 ou envoyer un mail à e.donaque@gmail.com.
On remettra toutes ces informations pratiques évidemment dans le podcast sur notre site rdwa.fr. Tu produis également des performances ? Des performances dansées, des performances dans les airs, comme Amen en 2017, dont je vous propose d'écouter un extrait sonore.
Mmh.
dans cet extrait qui est la bande-annonce de celle de ta performance, on te voit littéralement danser dans les airs, soutenu par un trapèze sur une musique de Fabian Fiorini.
Non, pardon, excuse-moi. Ça, en fait, je travaille avec deux musiciens différents et cette compo, c'est Eric Bribosia.
Alors, je tiens à préciser que dans la vidéo, il est écrit Fabian Fiorini.
Ah bon?
Malheureusement, oui. Bon, c'est pas grave. En tous les cas...
C'est une erreur.
Donc, Eric Bribosia.
Bribosia,
pardon. En tout cas, ce qui interpelle, c'est que tu danses sur ce trapèze et que par ailleurs, tu es dans l'espace urbain. Mmh. Tu es au-dessus de surface et on voit des éléments urbains qui se décomposent derrière. Est-ce que c'est important pour toi ou est-ce qu'à ce moment-là, c'était important pour toi d'être dehors?
Alors, Amen, je l'ai écrite en départ, cette pièce, enfin, c'est une pièce de 20 minutes et elle était pensée pour la salle. Ensuite, elle a aussi été jouée en extérieur et... l'importance, en tout cas, oui, du milieu urbain, je le développe plus sur un projet vidéo qui s'appelle Balade Portrait Urbain et qui est vraiment un travail sur la relation du corps avec le réel dans le milieu urbain. Donc ça, c'est vraiment un projet très spécifique sur la ville. Et Amen, oui, moi j'aime jouer en extérieur parce que j'ai un rapport direct avec le public. Après, tu crées pas les mêmes ambiances en salle que dans la rue. Mais oui, c'est un projet très intimiste, Amen, et qui fonctionne aussi dans la rue. Mais ce n'est pas une volonté spécifique de porter Amen dans la rue. C'est plutôt sur le projet vidéo où il y a toute une démarche avec l'espace urbain. Ouais.
Tu parles du rapport que tu as avec le public. Ce public, quand tu es dans l'espace urbain, tu le croises, mais par hasard, finalement. C'est quoi le lien qui se tisse avec ces personnes qui assistent à ta performance sans vraiment l'avoir cherché?
Alors ça, c'est sur Balade, sur ce projet Balade, où on se déplace pendant une semaine dans la ville et où je suis suspendue sans convier de public. Et donc oui, ce qui est chouette, c'est que les gens s'informent, voient où est-ce que je vais revenir dans la ville, ils te suivent. Et surtout, c'est ce qui me plaît, c'est de surprendre le passant et qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit convenu entre « ok, on vient voir ton spectacle, mais s'ils s'arrêtent parce que ça les interpelle », je trouve ça d'autant plus intéressant que d'avoir ce contrat qu'on a maintenant dans le système de festival, de salle, n'importe, enfin tout ce qui est programmation de spectacle, que je c'est pas un jugement, hein, mais c'est que ça m'intéresse moi d'aller confronter justement une performance dans l'espace public et voir est-ce que les personnes réagissent ou pas et quelles sont...
Et alors, est-ce qu'elles réagissent? Comment est-ce qu'elles réagissent?
Ah bah c'est chouette, les enfants font plein de commentaires, ils s'arrêtent, les adultes aussi font plein de commentaires, ils se permettent de te parler, enfin ils se permettent justement oui parce qu'en salle les gens ne te parlent pas, on te coupe jamais pendant que tu es en train de performer et là il y a un rapport direct qui se crée avec les gens. Et c'est très simple, en fait. C'est des échanges de mots, il n'y a rien d'incroyable, mais par contre, oui, il y a quelque chose de simple et direct et qui me semble chouette. Enfin, chouette. Intéressant.
On peut dire chouette aussi.
Ouais.
Et toi, qu'est-ce que tu... Donc là, tu parles de l'intérêt que tu as à avoir ce rapport avec les gens, mais au-delà de ce rapport avec le public, qu'est-ce que tu ressens très concrètement dans le fait d'être... suspendu dans l'air, au sens propre du terme, cette fois, l'air libre?
Tu ressens une énorme liberté. Quelque part, la première fois que je me suis suspendue sous les grues à Bruxelles, j'avais vraiment l'impression que la ville était... c'est une sensation de grande liberté, de faire ce que tu veux, là où tu veux. Et c'est un peu un appel aussi à une désobéissance... dans ta façon d'agir dans l'espace public, c'est me mettre à contre-courant de du rythme urbain qui est soutenu, qui est un brouhaha, qui est un chaos. Et l'idée pour moi, c'est d'être une figure en opposition justement à cette frénésie et d'amener de la douceur, du calme, de la suspension, c'est le cas de le dire. Donc voilà, ça c'est ce que moi je... ma motivation, en fait, à me suspendre dans la ville et à justement provoquer cette... cette friction avec le réel, ou je sais pas, ou en tout cas où je suis pas à ma place. Et c'est une invitation aussi à peut-être marcher à l'envers, je sais pas. Mais beaucoup les enfants, en tout cas, remarquent ça. Plein de gens, ça les dérange aussi. Et après, l'idée de ce projet-là, c'est pas juste de performer dans l'espace public, c'est aussi un travail sur l'image. Donc comment, à travers le cadrage et un travail vidéo, et donc vraiment photographique, comment moi me mettre en lien, mettre mon corps et le mouvement en lien avec ce qui se passe, des images du quotidien, et de là trouver une narration inédite de la ville et travailler sur la poésie, c'est un travail quand même très poétique.
Pour en parler justement de ce lien à l'image, je te propose d'écouter un deuxième extrait, qui est cette fois un extrait de Balade, non pas celle que tu as faite à Bruxelles, mais de Chalon-sur-Saône, et toujours donc de la bande-annonce du projet.
Ok.
Donc on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce de la vidéo qui a été faite sur le projet Balade 2 à Chalon-sur-Saône. Il y a un moment dans cette vidéo où on te voit comme un espèce de détail minuscule, un reflet, juste à côté du reflet d'un pont qui est énorme par rapport à toi. Je me demandais si c'était recherché cet effet. Comment est-ce que vous faites ces vidéos finalement ?
Comment on les fait ? Alors il y a une équipe de vidéastes. Je travaille avec Sophie Saporosi, qui est une artiste plasticienne avec qui j'ai développé les deux derniers volets. Enfin, j'ai pas tout le temps travaillé avec les mêmes personnes. Mais si je dois citer aussi Fred Chemama, qui a été le premier qui m'a suivi sur Bruxelles et Chalon, parce que l'idée, c'est de faire une série de portraits de ville. Et on a fait aussi Chalon-sur-Marne, enfin Chalon-en-Champagne cet été, avec Sophie et une autre. Et bon, si je dois dire les noms de tout le monde, ça va peut-être être un peu long. Mais comment on fait ? Le premier, il était super instinctif. C'était vraiment. On travaille en tout cas de manière très instinctive. On fait des repérages. On voit dans la ville. L'idée, c'était de me suspendre à la base sur des points qui sont des frontières, des lignes. Par exemple, à Bruxelles, le canal, il sépare rive droite, rive gauche. Il y a Molenbeek, c'est un quartier quand même assez connu à Bruxelles maintenant.
Et, malheureusement.
Et la rive droite, qui est le truc fashion, hipster. Donc vraiment, l'idée de me suspendre sur ces ponts, c'est d'être dans des endroits qui sont des endroits de jonction, mais aussi des endroits de séparation, et donc de travailler sur la frontière. Après, c'est pas tout le temps possible dans toutes les villes, mais on peut pousser la frontière d'une manière plus métaphorique entre le haut et le bas, le passé, le futur ou le présent. Enfin, il y a différents espaces où, par exemple, à Chalon-sur-Saône, je suis suspendue à des grues qui ne sont plus en fonction. Je suis entre ciel et terre. Enfin, voilà, on décline un peu l'idée comme on peut. Mais donc, le processus. Donc, je vais dans la ville, je suis invitée. En général, par un festival qui produit ce portrait. Puis, on fait un choix d'espace. Et ensuite, avec le cadreur de préférence. Et là, on décide de travailler sur ce qu'on a envie de mettre en valeur par rapport aux espaces. Donc, l'exemple que tu citais, où moi, je suis en micro par rapport à l'immensité de ces constructions. C'est montrer encore une fois ma fragilité, la fragilité de l'être humain dans l'espace.
Espace urbain.
Dans l'espace urbain. Et donc, selon ce qu'on a envie de raconter, avec les cadreurs, on se met d'accord sur ce qu'on va filmer ou pas. Après, c'est assez sauvage. On tourne très tôt le matin, très tard le soir. Malgré qu'on ait les autorisations, c'est en fait le réel qui nous dit « Ok, là, c'est le moment de filmer, on y va. »
C'est quand même l'usage de la ville qui quand même dicte.
Qui guide, oui, oui. Et c'est le hasard qui fait que l'oiseau passe à ce moment-là, qui fait que le bateau passe à ce moment-là, qui fait que des enfants vont venir jouer devant mon image. Voilà, après, on travaille beaucoup sur des choix de micro, macro, mon corps en relation avec ce qu'il y a en avant-plan ou en arrière-plan, ou par rapport aux lignes, d'une manière très graphique aussi.
Ce qui te permet de... Est-ce que, pour moi, une performance, c'est quelque chose de temporaire, quelque chose de figé à un moment donné, qui n'a pas forcément vocation à se reproduire énormément de fois. Or, la vidéo, pour moi, ça casse complètement ce rapport à l'instant. Est-ce que c'était ça qui dictait, qui a en fait motivé ton envie de filmer ces performances ? Le fait de pérenniser finalement ce geste dans le temps ?
C'était pas vraiment de le pérenniser, mais c'est juste que la vidéo, ça te permet d'avoir un autre regard sur le réel et justement d'avoir un regard poétique sur ce que les personnes sont en train de voir. Donc en fait, la performance, justement, je n'invite pas de public et les gens voient à un certain moment donné, oui, cette présence dans la ville, mais après ils sont invités, enfin invités ou pas, enfin, je le communique pas à l'instant même où je performe, mais ensuite dans le cadre du festival où là il y a la programmation, où on est dans cette convenue de il y a public, il y a présentation, où on présente ce travail vidéo. Et c'est vraiment un travail plastique. Et non, c'était pas l'idée de pérenniser cette performance. Au contraire, c'est d'avoir beaucoup, d'avoir un autre regard grâce à l'image, au travail sur l'image.
Et une quantité de regards finalement, parce que dans les vidéos, en tout cas dans les bribes, parce que c'est pas la vidéo complète, on voit une quantité d'angles extrêmes avec une lumière aussi très différente à chaque fois.
Et c'est ça, c'est d'avoir plein de points de vue et de montrer et de faire voir la ville aux habitants avec un autre point de vue, justement, un autre angle.
Un autre regard, ouais.
Ouais, et ça fonctionne très bien. Ce qui est chouette, c'est que les vidéos sont montrées, c'est comme une mise en abîme de Chalon projeté devant Chalon, ou en tout cas les Chalonnais ou les Bruxellois redécouvrent leur espace où ils évoluent au quotidien, et c'est ça qui est intéressant. Après, c'est pas mal aussi de faire découvrir d'autres villes et de les projeter ailleurs, mais le projet, il a été imaginé comme ça.
Nos auditeurs et nos auditrices, du coup, n'auront pas eu accès à l'image qu'on vient de décrire. Par contre, ils auront clairement entendu le son, la musique. Mm-hmm. Comment ça s'est passé, ce travail, avec ces musiciens avec lesquels tu as travaillé, donc Fabien Fiorini et Eric Bribosea?
Alors, avec Fabien, je travaille sur le live, sur Rayman. On ne travaille pas sur le projet vidéo. Et avec Eric, il m'accompagne depuis longtemps sur différents projets. Et là, c'est lui qui compose toujours pour Balade. Et il travaille la musique a posteriori, enfin après, en studio.
D'accord.
Une fois que le montage est fait. Et là, sur le dernier portrait qu'on a fait l'été passé à Châlons-en-Champagne, il a pris aussi des sons, chose qu'il n'y a pas sur les deux portraits précédents. Donc il était présent sur le tournage et ça rajoute un rapport avec le direct qui est intéressant. Des vrais sons de la ville et pas que l'effet clip qui peut y avoir, qui est moins intéressant finalement. Mais bon, ça évolue en fait à chaque portrait. Le projet avance et s'étoffe.
Combien d'autres portraits vous avez prévus ?
Pour l'instant, il n'y en a pas.
Mais ce serait une envie de continuer ?
À un moment, je me suis dit peut-être de faire ça à une échelle beaucoup plus petite sur 10 et voir peut-être travailler avec des habitants, des téléphones portables... Des trapézistes amateurs peut-être en suspension, enfin décliner le projet d'une manière locale et beaucoup plus moins onéreuse aussi, parce que c'est quand même un projet qui demande pas mal de sous, et ça c'est d'être ici, enfin en tout cas dans une zone, dans le Diwa, ça m'a donné envie de faire ça, mais j'ai pas encore fait aucune démarche.
Mais c'est l'idée, projet, ouais, peut-être. De toute façon, on suivra ce que tu fais. On a beaucoup parlé du fait que tu sois dans l'air, un peu moins du fait que tu danses dans l'air, parce que donc tu allies à la fois la danse contemporaine et le trapèze. Comment ça s'est fait, cette rencontre entre ces deux disciplines ? Est-ce que c'est au cours de ta formation ou plutôt au cours de tes différentes expériences ?
C'est au cours de mes expériences. Moi, j'ai pas vraiment fait de formation en école. Enfin, j'ai commencé des écoles, mais je les ai pas finies. Et dans des cirques où j'ai travaillé, il y a eu des danseurs avec qui on a échangé. Et puis, à un moment donné, j'ai carrément arrêté la pratique aérienne et je me suis reformée. J'ai été faire une école de danse en Hollande. Et j'ai arrêté le trapèze pendant 10 ans. Et après 10 ans, je me suis dit, il est peut-être temps de revenir à la base de là où je viens, en fait. Et j'ai pas cessé d'enseigner pendant ces 10 ans à des artistes aériens. Et du coup, j'avais besoin, moi, de me confronter à la grès et de voir comment, avec mon expérience dans la danse, comment j'allais aborder, après cette longue pause, cet élément.
Et alors, qu'est-ce que ça change à ta pratique, le fait d'y avoir incorporé finalement la danse ?
J'avais déjà instinctivement ce besoin de mouvement et de lien, parce qu'en gros, je pense qu'on peut dire que la danse, c'est l'art du lien, enfin, en lien avec aussi le rythme, mais chose qui n'est pas du tout évidente au départ dans le cirque. Dans le cirque, tu apprends des figures, donc c'est une suite de figures. Et ce que ça m'a permis, en tout cas, l'ouverture que m'a amené la danse, en tout cas ma pratique de la danse, c'est de faire plus avec moins. Je crois que maintenant, c'est ce que je cherche et ce que j'essaye de transmettre dans mon enseignement. C'est ça, c'est de prendre un point d'appui et d'aller chercher toutes les possibles de mouvements dans un point plutôt que d'enchaîner des figures les unes après les autres et de voir, d'aller chercher à l'intérieur d'eux et de pousser et de développer jusqu'à ce que la transformation se fasse et se permette d'aller plus loin. Quoi.
Oui, quand tu parles de lien, c'est le lien entre des formes ou des mouvements.
C'est ça, entre des formes, figures, et comment à l'intérieur de cette forme, tu la développes, tu la transformes, tu la répètes, voilà.
Est-ce que c'est une pratique, le trapèze, où il y a beaucoup de femmes ? J'ai l'impression d'avoir plutôt des images féminines.
Oui, carrément, c'est un peu le stéréotype de la femme circassienne.
Comment on peut expliquer ça ?
Comment on peut expliquer ça ? Parce que je pense que la trapéziste, c'était typiquement, pendant qu'on démontait la cage aux fauves, t'avais la nénette en string à paillettes pour divertir les gens, et c'était ça sa place à la base. Et justement, c'est aussi un peu en réaction à ça, où l'agrès trapèze fixe, il a été très longtemps dénigré, le petit vilain canard, parce qu'il est moins acrobatique, parce qu'il est... Parce que oui, il a cette espèce de cliché très, très kitsch, en fait. Et voilà, c'était comment lui redonner une place parmi les autres. Où moi, j'ai insisté avec cet agrès. Et en fait, il est intéressant. Parce qu'il offre justement plein de points d'appui. Tu peux être comme au sol, en fait, au trapèze. Et donc, oui, il est très féminin parce que c'était l'acrobate un peu plus âgé qui était là à faire trois jolies figures dans son string. Pour faire patienter les gens. Mais il y a de plus en plus de gars qui s'y mettent et c'est super chouette d'avoir cette énergie.
C'est ce que j'allais te demander, si c'était quelque chose qui changeait.
Ça change.
Et que par ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'on garde en tête, en tout cas personnellement je garde en tête, à la fois cette figure féminine, mais à la fois la figure masculine qui est celle qui retient quand la figure féminine s'élance dans les airs.
Alors, ça,
je me demandais si c'était quelque chose qui changeait ou pas.
Oui, des porteuses, dans d'autres disciplines aériennes, il y en a de plus en plus. Après, souvent, là, c'est une question de gabarit. Et si le gars est grand, évidemment, il pourra être plus puissant et permettre plus de... Enfin, plus. Oui, techniquement, tu peux aller plus loin quand il y a une grosse différence de poids. Après, dans mon cas, moi, je pratique une discipline en solo. Donc, il n'y a pas de porteur, il n'y a pas de voltigeur ou voltigeuse et de porteuse. Mais bref, donc moi je travaille toute seule et les trapézistes masculins qui s'y mettent aussi sont en solo. Donc c'est un mouvement...
Qui est très différent, ouais.
Oui, ça n'a rien à voir. Et nous, ce qu'on fait, ça s'apparente plus à de la danse, justement, qu'à de l'acrobatie. Tout ce qui est... Après, les porter à deux aussi, ça peut être très, très en mouvement et très dansé.
Merci, Élodie, de nous avoir parlé de cette discipline, mais aussi de ta pratique de cette discipline. Donc, on le rappelle, Élodie, tu organises des stages de recherche en mouvement aérien dans le Diwa. Peut-être que tu peux nous rappeler les dates.
Oui, donc du 8 au 11 septembre à Barneuve, du 13 au 16 octobre à Luc et du 17 au 20 à la Griotte à Die.
Donc des stages de, pour un coût de 200 euros, on peut te contacter pour s'inscrire, il y a encore des places.
Il y a encore des places, oui.
Voilà, c'est à destination principalement de personnes qui ont déjà une expérience dans le domaine, mais tu dis que tu n'es pas fermée à accueillir des personnes qui ont d'autres pratiques éventuellement.
C'est ça. Et aussi, je vais commencer à donner des cours de danse contemporaine Châtillon en Diwa à partir du 20 septembre. Donc c'est les mardis, il y a un cours pour les personnes âgées. Donc bienvenue aux personnes âgées qui aura lieu de 17h à 18h30 à la salle Kubnik. Après on enchaîne cours adultes de 18h30 à 20h les mardis soirs. Et les vendredis de 15 à 16h30 aussi cours adultes.
Quand est-ce que ça commence tout ça?
Le 20.
20 septembre.
Le mardi 20, ouais.
Tu peux nous rappeler tes coordonnées pour qu'on puisse te contacter si ça nous intéresse?
C'est 06 49 12 10 36. Et le mail, c'est e.donac@gmail.com. D-O-N-A-Q-E.
Et tu as par ailleurs un site internet où on peut voir tout ce dont on a parlé, ou en tout cas des extraits et des images.
Oui, c'est le www.elodidonac.com.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous êtes toujours sur RDWA. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur rdwa.fr. N'hésitez pas à la regarder et à la partager. À très bientôt pour une nouvelle interview du jour.
Vorbește lumea într-una, te lise rupe gura. Dar când apar în față, cu toți dispar în ceață. Vorbește lumea într-una, te lise rupe gura. Dar când în față apar, ca muștele dispar. În viața mea, în lumea mea, în soarta mea, e viața mea. Că voi nu-mi știți trăirile, motivele, ce face treaba mea. Nu vă băgați în viața mea, în lumea mea, în soarta mea, e viața mea. Că voi nu-mi știți trăirile, motivele, ce face treaba mea. Habar n-aveți de viață. Nu vă puneți cu mine, vă faceți de rușine. Nu vă băgați în viața mea, în lumea mea, în soarta mea, e viața mea. Că voi nu-mi știți trăirile, motivele, ce face treaba mea. În viața mea, în lumea mea, în soarta mea, e viața mea. Că voi nu știți trăirile, motivele, ce fac e treaba mea.